très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
D'afficher la plus belle.
Hola, bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute de Radio Canu. Il est l'heure de la petite partie d'actualité de la radio. Nous sommes le jeudi 13 juillet 2023. Je suis Delphine et je suis accompagnée de Laurent.
Bonsoir.
Nous allons... Alors, ce soir, au début, j'avais tenté un truc. On va vous parler que de bonnes nouvelles.
Ouais, moi j'ai respecté cette règle.
Voilà, et puis moi j'ai bugué. Alors, ouais. Laurent va vous parler de trucs plutôt de pas de nouvelles, de trucs sympas. Non, mais parce que bon, il y a des gens qui se font tabasser par la police, qui meurent à cause de la police. D'autres qui se font arrêter, discriminer. On a des femmes qui meurent toujours sous les coups de leurs compagnons et de leurs compagnes. Des violences homophobes, racistes, voilà, il y a toujours la guerre dans un certain nombre de pays, et puis un certain nombre de pays qui sont de plus en plus gouvernés par l'extrême droite, qui nous pend au nez bientôt. Une société quand même assez fracturée, il faut le dire aussi, mais voilà, on est au mois de juillet, il paraît qu'il faut boire du rosé, parce que c'est l'été. Alors donc, des bonnes nouvelles d'un côté, parce que ça fait du bien aussi de raconter que y a des gens qui font des choses, qui rapportent. Et que ça gagne. On parlera de nature, on ira du côté des iraniennes, on ira aussi du côté de Pita et de la Thaïlande au Japon. Nous parlerons d'UNESCO, nous parlerons du Scrabble et des mots racistes et injurieux. Nous parlerons des œuvres, la restitution d'œuvres spoliées, ça sera pas moi, pour une fois, ça sera Laurent. Et puis, après, on a deux sujets, si on a le temps, complètement sortis de nos cerveaux.
Donc c'est moi qui ouvre.
Exactement.
Bon, j'ai cherché des sujets positifs. Et c'est quand même la super croix et la bannière pour en trouver. Parce que d'abord, nos combats, on les perd à 99%. Du coup, on n'a pas trop de trucs positifs à dire. Et les autres, c'est des trucs positifs pour les méchants et pas pour nous. Alors, je vais commencer par un truc du gouvernement et qui est positif, du gouvernement et de l'Europe. C'est la bataille qui a eu lieu. Alors c'est une vraie bataille, pour le coup, quasi la guerre, au Parlement européen, qui a adopté donc en réunion plénière mardi dernier la fameuse loi européenne visant à restaurer la nature. Donc il s'agit d'un texte alors qui a été pas mal remodifié, qui est donc issu d'un compromis bien moins ambitieux que le texte de départ, mais qui est symboliquement quand même important. Et surtout, ça a été très difficile de le faire voter. Alors, pour refaire un petit peu la petite histoire, c'est le 22 juin dernier, le 22 juin de l'année dernière, que la Commission européenne avait publié une proposition de loi sur la restauration de la nature. La Commission proposait de restaurer 20% des zones terrestres et maritimes de l'Union européenne, donc ça c'est d'ici 2030, de réparer tous les écosystèmes nécessitant une restauration d'ici 2050. Le texte prévoyait également comme objectif de réduire l'utilisation des pesticides à 50% d'ici la fin de la décennie et d'obtenir un minimum de 10% d'espaces couverts d'arbres dans les villes. Plein d'autres choses, donc un texte ambitieux. C'est le premier règlement européen qui fixe de manière juridiquement contraignante des choses en matière de restauration de la nature. C'est nouveau, on a des textes de protection de la nature, là c'est un texte de restauration, c'est-à-dire on va essayer de faire revenir la nature là où on l'a bousillée. Donc c'était une occasion unique d'inverser l'attitude qu'on a habituellement autour du climat, de la biodiversité et de la nature. Alors, c'est la première donc grande réglementation européenne sur la biodiversité depuis celle de 92 qui s'appelait Habitat. Ça fait suite à pas mal d'engagements pris par la Commission européenne du point de vue stratégique sur l'écologie, l'environnement et la biodiversité, notamment avec cet horizon assez proche qui est 2030, dont l'idée c'est de reconstituer les écosystèmes abîmés, de les rendre résilients, notamment face aux destructions humaines et aux dérèglements climatiques. Donc c'est un truc très important. Alors, bien évidemment, ce texte a été ultra attaqué. Il y a eu une grosse bataille. Alors d'abord de la part des lobbies. Alors on a tous les lobbies de paysans productivistes, vous savez ceux qui, la FNSEA chez nous par exemple, qui sont représentés au niveau de l'Europe par leurs propres lobbies. Les semenciers, les fabricants d'engrais, les fabricants d'herbicides, tout ça, eux ils étaient bien évidemment à fond contre. Et puis il y a eu une bataille politique, porté majoritairement par la droite et l'extrême droite contre l'environnement et contre ce texte de restauration de la nature. Donc il y a eu des batailles au sein du Parlement, des tractations, et puis il y a eu des manifestations extérieures de chaque camp. Ça a été vraiment des moments forts de démocratie, relativement agressive, notamment ce début de semaine, avant le vote qui a eu lieu mardi. Donc voilà, c'était difficile. Alors la proposition qui est passée donc au Conseil de l'Union européenne le 20 juin dernier et qui a eu à l'époque un vote favorable des ministres de l'environnement des États membres, ça c'est important de le dire. Ça veut dire que même au sein des États de droite, les ministres de l'environnement des différents gouvernements ont voté pour ce texte. On a par exemple Christophe Béchu, ministre français de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui est allé de son commentaire en disant voilà, j'appelle tous les parlementaires à voter cette résolution, etc. Donc il y a un consensus au sein des ministres de l'environnement de l'Union européenne, même quand c'est des gouvernements de droite, voire de droite dure. Le truc, c'est que ça suffit pas, puisque il faut ensuite que le texte passe au Parlement. Alors, en fait, ce qui s'est passé au Parlement, c'est que les anti-écologie et les anti-protection de la planète ont d'abord déposé un amendement qui stipulait simplement cet amendement demande l'éjection instantanée du texte à voter. Donc voilà, ils demandaient carrément, donc dans ce premier amendement, d'arrêter de voter ce texte-là. Donc là, ça s'est joué. Donc c'est ça qui a été important finalement dans le vote, c'est ce premier amendement, donc qui a été porté par le Parti populaire, le PPE, Parti populaire européen, dans lequel on retrouve, qui est soi-disant de centre droit, on retrouve toutes les droites en fait. Ça a été porté aussi par le parti d'extrême droite au niveau européen qui s'appelle Identité et Démocratie, dont fait partie l'extrême droite française du Rassemblement National, et puis en partie par Renew, c'est le groupe libéral, Renew Europe, dont fait partie Renaissance, le parti du gouvernement. Et donc tout s'est focalisé sur ce premier amendement, si ça passait pas, c'était foutu. Et heureusement, c'est passé, donc 336 voix pour, contre, 300 contre. Donc c'est pas passé loin. grosso modo, la gauche, les Verts et une grande partie des libéraux ont voté pour, et quelques élus de droite aussi. Tout le reste a voté contre, enfin pour, contre l'amendement, mais pour voter ce, étudier et voter le projet de loi. Donc voilà, le texte finalement a été adopté, l'amendement rejeté, ils ont discuté, ils ont modifié des choses, des amendements ont été acceptés, d'autres rejetés, et au final le texte est voté. Alors c'est une très belle victoire, même si le texte adopté est bien moins ambitieux que la proposition initiale qui avait été proposée par la Commission européenne. Comme quoi la Commission européenne, qui est souvent critiquée, et notamment son côté non démocratique, ce qui est souvent aberrant, puisque la Commission, quand elle propose un texte, elle le fait voter par tous les ministres représentant la question de tous les pays, en fait. Donc ça reste démocratique, même si c'est pas une, c'est une démocratie super indirecte. Donc ils avaient voté un texte qui était quand même plus intéressant, mais c'est quand même la première fois qu'on a un texte juridique qui oblige à la restauration de la nature et plus à la protection. Donc ça, c'est fondamental. C'est une vraie évolution. Alors, c'est pas tout à fait fini. Le texte doit passer en commission environnement du Parlement. Puis ensuite, ça s'appelle le trilogue, là, ça doit être validé par le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen et la Commission européenne. Donc, Parlement européen, c'est fait. Commission européenne, c'est, voilà, ça va être fait. Il reste le Conseil de l'Europe. Ça veut dire qu'il faut quand même être vigilant dans les semaines qui viennent. Mais ça veut dire, et c'est ça qui est intéressant, et on l'a vu dans les votes, hein, puisque les votes sont détaillés, c'est transparent, la démocratie européenne. On voit bien que l'ensemble de l'extrême droite, Marine Le Pen et compagnie, ont voté contre un texte de restauration de la nature. Ils sont anti-environnement. On le savait déjà, mais comme ils font semblant, c'est bien de le rappeler. Que majoritairement, très majoritairement, tous les partis de droite étaient contre, et que c'est un peu le foutoir au sein des amis de Macron au niveau de l'Europe, ce parti libéral. Parce que là, il y a un quart qui ont voté pour et trois quarts qui sont opposés. Donc, c'est quand même compliqué. Il faut rappeler que le texte a été fortement défendu quand même par les Verts, hein, qui sont une force importante en termes de débat démocratique au sein de l'Union européenne et du Parlement. Donc voilà, ça a été compliqué, mais c'est une bonne nouvelle. Le texte a été voté. J'avais dit que j'avais de bonnes nouvelles. Alors, une autre nouvelle... Alors, qui est bonne et qui est pas bonne, mais on vous rappelait, hein, l'année dernière, un vaste mouvement de protestation a eu lieu en Iran. C'était la plus forte menace, hein, que le régime dictatorial religieux iranien avait vécu depuis plusieurs décennies. C'était peut-être même le plus gros de son histoire. Il y a eu quand même une grosse mobilisation suite à la mort, à l'assassinat, hein, d'une jeune femme kurde parce qu'elle portait pas ou mal le voile. Alors, suite à ça, le mouvement a duré un petit moment, là il s'est essoufflé, la répression s'est remise en place, mais il existe toujours des petites zones où les Iraniens et les Iraniennes continuent de s'exprimer. Et c'est notamment autour de celles et ceux qui ont perdu la vie lors des assassinats par les forces de sécurité, voilà, les brigades religieuses du gouvernement. Alors, on parle par exemple d'actes. Alors, c'est des petits actes, c'est symbolique, mais ça fait parler, notamment sur les réseaux sociaux, puisque c'est là où il y a le plus ou le plus de liberté entre guillemets pour l'Iran. On a pas mal de témoignages, alors je vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple on a la famille d'Abol Fazol Adinezadeh, je prononce pas trop mal, donc c'est sa famille, la famille de l'adolescent qui a été tué en octobre dernier lors des manifestations. Pour marquer son 18e anniversaire, ils ont organisé une cérémonie sur sa tombe. Et ils avaient invité les gens à participer. Alors, ça a été réprimé fortement par les forces de répression de la dictature iranienne qui a arrêté la famille la nuit précédente. Mais, en fait, devant ce qui s'est passé et comme ça avait été un peu médiatisé sur les réseaux sociaux, il y a eu un fort élan de solidarité et d'autres personnes, même pas du tout de la famille, ont repris le relais et ont célébré la mémoire du jeune adolescent en publiant pas mal de choses sur les réseaux sociaux. On a d'autres exemples, voilà, de proches d'un jeune kurde assassiné lors de ces manifestations. Eux, ils sont allés sur la tombe, ils ont posé des bougies, des ballons, un gâteau, et ils ont publié publié ça et c'est repartagé. Et en fait, ça entretient cette idée que la lutte n'est pas finie, qu'il y a toujours des gens qui n'acceptent pas ce qui s'est passé. Alors bien évidemment, il y a des contre-exemples, parce que des fois, quand ils organisent des choses comme ça, la police intervient. On a le cas de Mamounir Mollaher Rad, donc cette famille-là, et Mamounir c'est le nom d'un des parents, leur fils a été assassiné par les forces iraniennes l'année dernière. Ils avaient prévu de commémorer son anniversaire, il aurait dû avoir 10 ans. Et en fait, la police est intervenue et a retué quelqu'un de la famille. Donc c'est pas toujours évident. Mais quand même, ce genre de petites actions, c'est les manières de montrer que voilà, il y a toujours des gens qui sont pas d'accord avec le régime. Alors, ça a un impact et en fait, on s'en rend pas bien compte. Mais on a des petits indices. On a notamment des éléments de la ligne dure du régime iranien qui commencent à changer un peu de discours, malgré le discours officiel et répressif. On a par exemple Javan, qui est un journal proche de la ligne dure des gardiens de la révolution, qui a écrit le mois dernier que la République islamique d'Iran avait tort de se montrer si dure envers les femmes sur la question du hijab, du voile. Donc ça veut dire que voilà, il y a quelques petits éléments qui montrent que toutes ces petites choses qui sont faites aujourd'hui ont l'air d'avoir un impact et qui continue. Voilà, il n'y a plus le gros mouvement qu'on a connu l'année dernière, mais il y a toujours ces petites choses, ce qui redonne donc un peu d'espoir, même si c'est un petit espoir.
Alors on va partir en Thaïlande, pas forcément pour des super bonnes nouvelles, mais malgré tout, il faut aussi savoir que derrière cette nouvelle dont je vous parlais, il y avait un espoir en Thaïlande. Alors, on a donc aux dernières législatives du mois de mai, le parti d'opposition Move Forward, dirigé par Pita Limjaroenrat, que nous allons appeler Pita, puisque pour les Thaïlandais et les Thaïlandaises, on utilise souvent le prénom. Donc vous aurez compris que ça m'arrange en termes de prononciation. Donc on a le parti Move Forward qui arrive aux législatives, qui écrase quand même les autres partis, dont les partis du Premier ministre sortant conservateur militaire, hein, ancien putschiste, qui est en place depuis 2014. Et donc, assez normalement, Pita aurait dû obtenir le poste de Premier ministre à la suite de cette victoire aux législatives. Mais voilà, on est au mois de juillet et aujourd'hui, on a appris que la Chambre basse et la Chambre haute réunies ont voté contre la prise en main du poste de Premier ministre par Pita. Alors, il faut dire que il y a aujourd'hui une constitution mise en place par l'armée qui lui est largement favorable à cette armée. Et donc, on a des militaires qui ne souhaitent pas perdre leur avantage. Et ce parti Move Forward, dont je vais vous raconter un peu plus en détail le programme, vient bouleverser complètement cette espèce de statu quo. Il faut se souvenir que depuis la fin de la monarchie absolue en 1932, il y a eu quoi, une douzaine de coups d'État hein, en Thaïlande. Donc on a un pays dirigé par des militaires et Move Forward amène quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de mettre à bas justement l'armée au pouvoir dans le pays. Donc c'est un nouvel espoir quand même que ce parti Pita a amené lors de ces élections. Mais voilà, on a une chambre basse et une chambre haute qui ont voté contre, en tout cas pas assez précisément, puisque sur les 705 voix possibles, il en a obtenu Pita 324. Il lui en fallait 375 pour pouvoir être premier ministre. Pourtant, Pita, il a réuni derrière lui une coalition de 8 groupes, donc au niveau de la chambre basse, donc c'était plutôt important quand même. D'autres partis qui ont aussi envie d'un renouveau. Mais voilà, on a sur la Chambre haute des sénateurs conservateurs, soit militaires, soit proches de la royauté, qui ont bloqué sa candidature. Pourtant, il n'y avait personne d'autre en face, puisque l'ancien Premier ministre a mis fin à sa carrière politique, il l'a annoncé sur les réseaux sociaux.
Il a quand même gagné les élections.
Mais là, c'est une décision qui est contre les élections du peuple, hein, et quand même, ça, il faut quand même se le dire. Même si, évidemment, au niveau de ces élections, il n'était pas dans une majorité, mais c'est lui qui a le plus de voix. Et en tout cas, en Thaïlande, ça marche comme ça. Donc, normalement, de toute façon, les chambres hautes et basses vont devoir se réunir jusqu'à ce qu'il y ait un Premier ministre qui soit élu. Donc, la prochaine date annoncée, c'est le 19 juillet prochain. Le problème, c'est que Pita voit quelques ennuis judiciaires au-dessus de sa tête qui viennent évidemment qui pourraient l'empêcher évidemment de se présenter et de permettre donc à Move Forward de prendre la tête de la Thaïlande. Alors on a la commission électorale qui a recommandé hier la suspension du député pour irrégularité. Alors j'ai pas trouvé trop d'informations comme quoi c'était pas vrai. Mais en tout cas, c'est plutôt la méthode qui est assez mauvaise, puisque la commission électorale estime pouvoir saisir la Cour constitutionnelle, donc proche des militaires, comme je vous l'ai dit, hein, puisque créé par eux et donc tout à leur avantage, un dossier sur lequel Pita est accusé d'avoir possédé des actions d'une chaîne de télévision pendant la campagne, et c'est absolument interdit. Donc ça, ça le coince un peu. Alors évidemment, c'est pas parce que j'ai pas lu des choses qui infirment cela, ce n'est pourtant pas quelque chose qui est faux, hein, attention. En tout cas, là, c'est un vrai problème. Il faut savoir que quand même, Pita risque la prison, la perte de son siège, une inéligibilité durant 20 ans. C'est très compliqué quand même ce qui lui tombe dessus. Évidemment, on sait que tout ça va créer des problèmes, hein, en Thaïlande, on va y revenir. La Cour constitutionnelle a annoncé aussi qu'elle avait validé une requête d'un avocat qui accuse Pita et Move Forward de vouloir renverser la monarchie. Alors, il faut bien dire la vérité, c'est que Move Forward a largement aussi obtenu des voix sur à la fois s'attaquer à une position dominante des militaires, mais aussi à changer la constitution de 2017 pour pouvoir changer aussi la place de la royauté au sein de la Thaïlande et de la société thaïlandaise. En particulier, Move Forward veut s'attaquer à ce fameux article 112 dont je vous ai déjà parlé ici. C'est cet article de lèse-majesté qui a permis de faire taire tout un tas d'activistes militants et militantes en Thaïlande. Ça fait partie de ces lois très faciles. Vous claquez les doigts, c'est lèse-majesté et hop, on vous fait tomber, on vous met en prison, on vous sanctionne. Et puis, il y a ceux et celles qui, de fait, ont aussi tenu des propos contre le roi, qui est un roi qui profite largement de l'argent de la Thaïlande, un roi intouchable, quasi divin. Et donc, ce parti réformiste veut changer la donne. Et ça, ça plaît évidemment pas du tout à l'armée, qui veut conserver à la fois sa position dominante, mais aussi ce système de royauté qui lui permet d'exister et de continuer à survivre. Alors, donc, on a ces deux problèmes. Alors, là, ce qui peut se passer, c'est que les gens redescendent dans la rue, comme en 2020. Et c'est aussi sur ça qu'a gagné un Move Forward. C'est sur cette envie d'une population thaïlandaise qu'en a marre ce système de classe, à la limite de caste, en Thaïlande, avec des militaires et un roi qui se croit tout permis et qui ont tous les droits, il faut bien le dire quand même. Donc ça pourrait ramener peut-être une certaine instabilité dans la rue. Il faut se souvenir qu'en 2020, il y avait une répression quand même assez terrible, à la fois dans la rue et un certain nombre de gens qui avaient été arrêtés, incarcérés. Alors pour du côté de Move Forward, on parle d'abus de pouvoir, bien évidemment, de traitement injuste et puis surtout d'une rapidité à toute épreuve pour faire tomber Pita d'ici la semaine prochaine pour l'empêcher de pouvoir être donc Premier ministre. Parce que sinon, on se demande bien pourquoi agir aussi rapidement et puis pourquoi pas avoir fait tomber Move Forward avant. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est d'où vient Move Forward. Alors, c'est né de la dissolution de Future Forward qui avait été dissous par la constitutionnelle en 2020. Ce parti était apparu en 2019 et avait fait une petite percée dans les urnes qui s'était fait remarquer. Et c'est justement avec ces nouvelles élections en 2023 que le parti a pris toute son importance. Et il s'appuie évidemment sur les constatations, je vais pas y arriver, de 2020. Les gens sont descendus dans la rue, veulent du changement et ce parti réformiste en a profité. Pita, c'est un homme qui a 42 ans, il est donc jeune, hein, il remplace un homme qui a pratiquement 70 ans, hein, Prayut Chan-o-Cha, donc, qui est là depuis 2014, dont les gens ne veulent plus, c'est un militaire, hein, je vous le disais tout à l'heure, ancien putschiste, donc c'est pas marrant, voilà. Pita, lui, il incarne une jeunesse, mais pas que, parce que l'intelligence aussi de Mouffermal, c'est d'avoir su transférer une colère... d'une population en une organisation politique, mais aussi qui est sortie des zones urbaines. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que Move Forward, c'est un parti d'une population urbaine, plutôt aisée, éduquée, mais pas seulement, en fait, au final, puisque même dans les zones plus rurales, le parti a aussi gagné les jeunes. C'est aussi cette jeunesse qui veut du changement, qui aussi réagit à une crise économique assez importante en Thaïlande et qui donc a voté pour ce parti, donc finalement tout neuf, hein, aussi, qui arrive dans les urnes. Alors, on a donc cet homme divorcé, qui est comme une idole aujourd'hui. Il est acclamé, hein, pendant ses meetings. Il annonce une rupture avec les militaires. Alors, il vient pas non plus, hein, de n'importe où. Il vient d'une bourgeoisie thaïlandaise. Un homme qui a été envoyé à Harvard faire ses études. Donc, c'est quelqu'un qui est éduqué, bien éduqué. Il a un parcours d'homme d'affaires aisé. Plein de choses lui réussissent. Donc, c'est pas non plus quelqu'un, hein, qui s'est fait petitement. Il vient d'une famille influente dans le monde politique et des affaires. À 12 ans, il est envoyé en Nouvelle-Zélande. Il revient ensuite en Thaïlande. Il a obtenu un diplôme à Bangkok. Et je vous le disais, ensuite, il se dirige vers Harvard. À 25 ans, il revient en Thaïlande au décès de son père. Il prend les rênes de l'entreprise familiale. Et puis, il va retourner aux États-Unis, reprendre ses études. Et il va être nommé directeur d'une filiale thaïlandaise de Grab. C'est une entreprise de transport et de livraison de nourriture, et là, bah, évidemment, il fait un petit peu quand même du pognon, hein, je veux dire, Pita, c'est pas non plus un homme du peuple. Mais c'est vrai que en 2018, quand il a créé Future Forward, il va être proche du fondateur du parti. Il va devenir candidat aux élections législatives en 2019. Il va remporter un siège de député à une époque où c'est pas simple, hein, d'être dans l'opposition aussi. Il faut quand même garder ça en tête. Et puis, bah, il va prendre de l'ampleur au sein du parti et même simplement de la scène politique. Il va, par exemple, mener en 2019 un grand discours sur la politique agricole. Personne va pouvoir là-dessus lui reprocher ça. C'est-à-dire que même ses contradicteurs vont reconnaître que son discours était plutôt intelligent et plutôt bon pour le pays. Donc il va vraiment gagner cette popularité et séduire tout de suite une jeunesse. Et quand arrive 2020, les contestations urbaines et dans la rue, ces contestations politiques très fortes, avec la dissolution de Future Forward, il va se remettre en avant et il va y avoir donc la création de ce parti Move Forward qui va tout de suite pouvoir prendre une place extrêmement importante au sein de la société thaïlandaise. Finalement, sur la mort de Future Forward, il y a une création qui est relancée, qui est encore plus forte. Finalement, on se demande si l'armée n'avait pas laissé Future Forward être ce qu'était ce parti, il ne s'aurait pas donné autant d'importance à ce jeune politicien de 42 ans. En tout cas, on a là quand même un parti qui avance, qui est très progressiste, je vous le disais, puisque on nous parle évidemment, hein, donc je vous le disais, hein, de changement de la Constitution, de la fin de cet article 112 de lèse-majesté, mais c'est aussi un parti qui parle de la légalisation du cannabis, à des fins récréatives, certes, mais voilà... dépénalisation de l'avortement, du mariage pour tous, d'une libéralisation aussi de l'économie, puisque comme dans un certain nombre de pays où l'armée est au pouvoir, l'armée fait aussi en sorte de conserver un certain nombre de secteurs fermés, ou en tout cas très encadrés, pour pouvoir conserver effectivement la mainmise économique sur une partie des activités du pays. Donc là aussi, dans une situation de crise, bah, ça a intéressé aussi les plus jeunes. Et donc, on a un parti qui est un espoir pour la Thaïlande, qui est quand même coincé avec ses militaires et son roi pratiquement divin. Donc ça, c'était l'espoir. Là, l'espoir, évidemment, il retombe, pouf, Très durement pour ceux et celles qui ont voté pour PITA et ce parti réformiste et progressiste. Donc c'est très compliqué de savoir exactement ce qui va pouvoir se passer dans les prochains jours. Est-ce que le 19 juillet, définitivement, PITA va se prendre une claque ? Est-ce que les ennuis judiciaires peuvent aussi l'atteindre très fortement ? Est-ce que les militaires vont aller jusque-là ? En sachant que tout le monde s'est dit qu'il va y avoir une contestation dans la rue qui va être très très forte. On n'en est plus en 2020, on est en 2023. Il y a un parti qui a gagné des élections. Contredire ces élections, ça serait quand même une preuve qu'encore une fois, la Thaïlande s'enfonce dans un déni de démocratie. C'est pas un pays qui a une grande liberté d'expression de la presse, par exemple. Voilà. On attend donc la suite pour la semaine prochaine ou dans les jours à venir.
Et ben moi, je vais au Japon avec, dans ma série des bonnes nouvelles, on va parler des minorités sexuelles au Japon. Alors, c'est pas facile pour elles en général dans ce pays. C'est une affaire où une fonctionnaire transgenre a porté plainte contre l'État, qu'elle a accusé d'avoir rejeté sa requête pour un assouplissement de l'utilisation des toilettes pour femmes. Et la Cour suprême a rendu mardi dernier un arrêt historique. Alors je détaille, je vais expliquer ce qui s'est passé. La Cour a qualifié d'illégale la décision de l'Autorité nationale du personnel. Alors l'Autorité nationale du personnel, c'est la structure étatique chargée de la gestion des ressources humaines salariés de la fonction publique japonaise, qui avait rejeté la plainte en 2015 de cette salariée qui demandait une utilisation possible des toilettes. C'est historique parce que c'est la première fois que la Cour suprême japonaise rend une décision sur les conditions de travail des minorités sexuelles dans un pays où c'est pas facile. Donc l'origine du procès remonte à 2015, comme je l'ai dit. Donc cette plaignante travaille au ministère de l'économie, elle est donc fonctionnaire. Elle avait saisi donc cette fameuse autorité nationale du personnel pour qu'elle fasse retirer une décision de la direction de son ministère qui lui interdisait d'utiliser les toilettes pour femmes de l'étage où elle travaillait. Elle était obligée de descendre deux étages plus bas pour aller dans les toilettes hommes. Donc la structure avait rejeté sa requête en s'appuyant sur un fait qu'elle était officiellement toujours un homme au niveau de l'état civil. Alors de fait, au Japon, le changement de genre ne peut se faire que s'il y a une chirurgie qui modifie le sexe. Donc ça complique quand même pas mal la donne. Pour des raisons de santé, cette salariée n'avait pas encore pu être opérée et elle avait donc fait cette requête qui avait été ensuite rejetée. Donc là, elle avait déposé plainte suite au rejet de l'utilisation des toilettes pour femmes. Elle avait déposé plainte. Et donc ça a mis du temps, hein, 2015. La décision a été rendue mardi dernier. Les juges de la Cour suprême ont reproché en fait à l'Autorité nationale du personnel d'avoir donné trop d'importance à la gêne qu'aurait pu occasionner l'utilisation des toilettes pour femmes par cette personne transgenre. Le refus initial a été qualifié de manque de justesse par les juges qui disaient que c'était aller trop loin. Alors il y a une compensation financière de 110 000 euros. Ça fait 110 000 euros, non, 110 000 yens, ce qui fait à peu près 711 euros. Alors ça a fait réagir du coup parce que c'est quand même historique. Au Japon, il y a eu des articles dans les journaux. On a par exemple le professeur à l'université Aoyama, l'université s'appelle Aoyama Gakuin. Lui, il s'appelle Hiroyuki Taniguchi, donc un universitaire qui travaille sur les droits des personnes LGBTQI, qui dit, qui a salué la décision de la Cour et qui a dit que même si la décision ne concernait que le service public, ça aurait sûrement des impacts sur les entreprises privées et ça peut faire changer aussi donc les mentalités. Et modifier et améliorer les conditions de travail des personnes LGBTQI. Alors comme lui il explique, il n'y a pas de solution parfaite ni généralisable à tous les individus, il faut ajuster la situation avec souplesse. Le problème c'est qu'en fait ce qu'il dit c'est pas faux, sauf que la souplesse dans la société japonaise qui est une société sexiste, machiste et quand même pas mal transphobe, elle n'existe pas, cette souplesse. Donc, cet arrêt de la cour japonaise, là, va permettre d'amener de la souplesse, en tout cas des obligations. Donc c'est une victoire dans le combat contre les discriminations faites aux personnes LGBTQI au Japon. Une petite victoire, la lutte continue, ça reste un pays qui est quand même ouvertement transphobe, homophobe, qui est ultra sexiste. Enfin voilà, je pense que vous connaissez toutes et tous un peu la mentalité globale du Japon, bien évidemment, c'est global et il y a des individus qui se battent pour faire changer les choses.
Alors on va parler de l'UNESCO. Alors ça c'est la grande nouvelle qui fait que dans les bureaux de l'UNESCO là, on est monté sur les tables et on danse.
Ah mais c'est bien.
Alors pourquoi? Parce que Monsieur Biden a annoncé le retour des États-Unis d'Amérique à l'UNESCO, ce qui est une grande nouvelle évidemment politique, mais aussi une grande nouvelle financière. Je vous en parlais. Ça avait été annoncé au mois de juin. Monsieur Biden avait fait savoir qu'il fallait revenir au sein de cette organisation de l'ONU, et de fait, les États-Unis sont donc devenus le 194e État membre de l'UNESCO. Alors il y a encore un petit vote qui va se faire, mais ça va se faire. Enfin, je veux dire, c'est assez facile. Du côté de l'UNESCO, il y a eu un beau communiqué. Là, vraiment, on sentait qu'il était monté sur les tables, hein, puisque il est tout content, le communiqué. C'est un bilan qui est salué, mais c'est aussi un avenir qui est tracé. Ce retour des États-Unis et les ressources supplémentaires qui l'accompagnent vont nous aider à encore mieux accompagner chacune et chacun à travers le monde, les élèves et les étudiants, les chercheurs, universitaires, artistes, éducateurs, journalistes, tous ceux vers qui notre action quotidienne est tournée. L'UNESCO aura plus de moyens pour se consacrer à ces deux priorités stratégiques que sont l'Afrique et l'égalité des genres. Alors, il faut se souvenir d'abord que sous la présidence de Monsieur Trump, en 2017, les États-Unis d'Amérique quittent l'UNESCO. Alors c'était déjà arrivé en 84 sous la présidence de Monsieur Reagan, qui trouvait que ça coûtait trop cher. Vous allez comprendre qu'il n'a peut-être pas tort tout à fait, hein, quand même. En tout cas, pour Monsieur Trump, c'était une organisation qui avait des partis pris anti-israéliens. Il faut se souvenir que la Palestine est entrée à l'UNESCO, fait partie des États membres. Ça avait beaucoup fâché du côté des États-Unis d'Amérique, mais par exemple, du côté d'Obama, on n'avait pas osé s'en aller. À la différence de Monsieur Trump, du côté donc de la présidence Obama, on avait coupé les fonds. Une autre méthode, ce qui arrive à peu près au même, mais il n'y avait plus d'argent qui avait été versé par les États-Unis d'Amérique. Alors, pourquoi c'est important financièrement et que ça danse sur les tables, au-delà de l'importance politique de ce retour des États-Unis au sein de l'UNESCO, c'est que en quittant l'UNESCO, les États-Unis d'Amérique ont laissé une grosse somme non payés, non soldés. Vous savez, vous avez des cotisations, vous êtes dans une association, vous vous barrez, vous devez des sous. Bah, c'est pas soldé, mais vous les devez quand même. Et bah, c'est exactement ce qu'a fait les États-Unis d'Amérique. On fait les États-Unis d'Amérique, excusez-moi. Ça représente beaucoup d'argent, près de 22% du budget. Donc, si jamais les États-Unis d'Amérique rendent cet argent, ça va remonter évidemment les caisses de l'organisation, et surtout que M. Biden s'est engagé à rembourser cette dette de 619 millions de dollars, une dette accumulée entre 2011, donc l'arrêt de la présidence Obama, et 2018. Ça fait beaucoup d'argent, et surtout que M. Biden a dit donc qu'il allait sortir 150 millions de dollars pour 2024, et qu'ensuite ça allait continuer jusqu'à avoir résorbé donc cette dette auprès de l'organisation. Donc c'est important. Et puis, il y a le côté, évidemment, politique. Pourquoi M. Biden fait revenir les États-Unis d'Amérique dans le giron de l'UNESCO? Alors, il faut se souvenir qu'il y a effectivement des ennemis qui avaient pu choquer M. Reagan. C'est qu'il y a l'Iran, par exemple, qui ont pu choquer d'autres, comme M. Bush. Et puis, il y a la Chine. Je rappelle que c'est pas le grand amour en ce moment avec les États-Unis d'Amérique. Et puis, il y a la Russie, par exemple. Donc, il y a eu une réflexion du côté de M. Biden qui s'est dit, en fait, il faut qu'on retourne quand même dans cette organisation qui œuvre pour la paix, l'éducation, le rassemblement, le discours, et ne pas laisser nos ennemis être à la mainmise, et en particulier la Chine, parce que finalement, l'Iran, ça change pas grand-chose. La Russie, il y a la guerre, mais bon, c'est voilà. Mais il y a la Chine quand même qui a une place économique extrêmement importante aussi auprès d'un certain nombre d'organisations à travers le monde et à travers l'UNESCO. Donc, c'est aussi revenir dans une organisation pour avoir une portée internationale et réasseoir le symbole des États-Unis d'Amérique comme ayant du poids dans ces propositions d'éducation, de sauvegarde des pays, de la paix et des accompagnements économiques de l'Afrique, par exemple. Ça montre un bon côté des États-Unis d'Hermès, ce que ne voulait pas faire Monsieur Trump. Il pensait que l'ingérence ailleurs, il n'en avait rien à péter, que les Africains, ils avaient qu'à se démerder, que c'était pas son problème. Donc là, on a une position qui est assez différente de la part de Monsieur Biden. Et puis, donc, je vous le disais, c'est... belle avancée financière pour l'UNESCO. Mais l'UNESCO, c'est aussi donc des petits problèmes politiques. Et là, il y en a un en ce moment assez important qui concerne un bisbille entre le Maroc et l'Algérie. Puisque l'UNESCO, vous savez, ça inscrit, ça classe un certain nombre de patrimoines physiques, matériels, du bâtiment. La baguette, enfin en tout cas, la manière de manger, par exemple, en France. Sarkozy était très fier... de ce genre de choses. Donc on a ce patrimoine immatériel et puis on a des petites choses. Et donc là, le Maroc n'est pas très content puisqu'il pourrait y avoir un classement, une inscription d'un caftan, le caftan vous savez c'est un vêtement, comme patrimoine de l'Algérie, alors que pour le Maroc c'est un patrimoine de Fès, et donc on voit pas comment les Algériens pourraient récupérer...
Fès, une ville marocaine.
Exactement, pourraient récupérer ce caftan. Donc du côté du Maroc, on crie à l'appropriation culturelle, et il y a une récupération intellectuelle donc de ce vêtement. Voilà, des bisbilles aussi qui arrivent entre différents pays, puisqu'aujourd'hui c'est devenu, vous savez que Ville de Lyon fait partie de ces villes qui sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Bon, en France on a aussi les bâtiments de France, enfin on a tout un tas de, quand même, de strates de protection du patrimoine bâti en tout cas, et la Ville de Lyon tente de mettre en avant ce patrimoine architectural, cette inscription au patrimoine de l'UNESCO, parce qu'il paraît qu'en fait les touristes ne le savent pas toujours, ils viennent, ils trouvent ça joli, mais qu'ils n'ont pas du tout cette information. Et donc c'est une bataille aussi touristique, économique et parfois politique d'arriver à dire, mais attendez, nous on veut, ce label pour dire à quel point on est vachement bien. Parfois ça a permis aussi à des pays de vanter plutôt comment le patrimoine il est bien, ou comment il y a un joli label plutôt que les petits problèmes de démocratie ou de liberté d'expression dans le pays. Donc c'est aussi une portée politique extrêmement importante, et là donc c'est une bataille entre l'Algérie et le Maroc pour un vêtement quand même qui est beau, très sincèrement c'est très beau, mais voilà, on en est là quand même.
Alors je vais continuer dans mes nouvelles positives de la journée. Bon, la première, elle va être hyper anecdotique. Ça nous vient de la Fédération internationale de Scrabble francophone. Bon, je savais pas que ça existait, mais cette fédération a un dictionnaire officiel, voilà, qu'on appelle officieusement le dictionnaire du Scrabble, mais qui doit s'appeler l'officiel du Scrabble dans le vrai terme, et dans lequel il y a les mots qu'on a le droit d'utiliser ou pas. Il y a les mots qu'on a le droit d'utiliser au Scrabble. Et il n'y a pas tous les mots, en fait, voilà, il y a des règles. Bref, dans la 9e édition, ils ont décidé de supprimer les mots, grosso modo 62 mots. En fait, ce n'est pas 62 mots, mais c'est une vingtaine de mots et leur déclinaison masculin, féminin, etc. Qui avaient des portées négatives. On pense à des termes racistes, sexistes, homophobes, des choses comme ça. Et donc, ils ont enlevé des mots qui étaient utilisables, comme asiat, nègre, romano, femmelette, lopette, tontouse, travelot. Et le mot gogol aussi est passé à la trappe pour qui est un mot négatif sur les handicapés. Donc alors ça sert à rien, ça apporte rien, c'est juste symbolique, mais je trouve ça sympa de retirer d'un jeu certains mots qu'on ne doit pas utiliser dans la vie de tous les jours, mais qu'on ne doit pas non plus finalement utiliser dans les jeux qui utilisent les mots.
Alors c'est important parce qu'il y a des compétitions, ma foi, tout à fait sérieuses autour du Scrabble. Et donc dans une compétition, ma foi, tout à fait sérieuse, interdire quelqu'un d'utiliser le mot...
Tarlouse, par exemple.
Ou négro, ça a toute sa portée. Donc c'est plutôt aussi important.
Tout à fait. Alors autre chose, et qui a un peu plus d'ampleur, et qui est fait suite à différentes lois. Alors là, c'est aujourd'hui, c'est le Parlement français qui est adopté à la majorité, à l'unanimité. Donc tout le monde a voté, ça veut dire. C'est une loi qui va faciliter la restitution par les collections publiques françaises des biens culturels dont les Juifs furent spoliés sous l'Allemagne nazie et sous le gouvernement de Vichy. Donc c'est l'Assemblée nationale puis le Sénat qui ont donc validé ce texte de loi. Donc il est définitivement adopté, porté au Sénat par la sénatrice Béatrice Gosselin, qui est apparentée de droite, LR. Donc l'objectif, c'est de fixer un cadre légal pour faire sortir les œuvres des musées afin de les restituer à leurs propriétaires légitimes ou surtout à leurs ayants droit, hein, parce qu'en général, maintenant, on est plutôt avec des ayants droit, sans avoir à recourir à des textes législatifs qui étaient votés au cas par cas. Les ayants droit pourront donc passer un accord à l'amiable avec l'État français pour soit récupérer, soit avoir des réparations s'ils veulent laisser les œuvres. Alors pour rappel, hein, 100 000 œuvres à peu près auraient été saisies en France, on va dire durant cette période de la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est entre 1933, les premières lois fortement anti-juives, et 1945, la chute du gouvernement de Vichy et de l'Allemagne nazie. Donc 60 000 de ces biens s'étaient retrouvés en Allemagne et avaient été renvoyés en France lors de la chute des nazis. 45 000 avaient été rapidement restitués. 2 200 œuvres environ sont retrouvées dans les musées nationaux, le reste ayant été vendu par l'administration des domaines au début des années 50. Alors contrairement aux œuvres données aux musées nationaux, l'État ne peut lancer la restitution des œuvres qui sont sorties de son domaine. Mais donc là, ça va permettre à ces œuvres qui sont pour l'instant des œuvres acquises et officiellement aux musées nationaux, donc dont ils sont propriétaires, les ayants droit vont pouvoir demander soit réparation, soit les récupérer. Alors c'est quelque chose de très symbolique, puisqu'il n'en reste que 2200 à peu près dans les musées nationaux sur les 100 000, mais c'est toujours important d'avoir ce genre de loi. Surtout que ça va lancer d'autres lois. Vous vous rappelez peut-être, hein, en 2010, en Nouvelle-Zélande, on avait rendu des restes humains, en fait des têtes maoris qui avaient été rendues. Donc là, il y a une loi qui a été adoptée en première lecture le mois dernier au Sénat, qui généralise aussi la restitution des restes humains, parce qu'on a été plus loin que les œuvres d'art, hein, dans l'horreur. Et puis il y a aussi cette fameuse restitution des biens culturels africains qui existe aujourd'hui. On le voit régulièrement avec le musée Jacques Chirac, hein, qui a rendu des œuvres. Il n'y a pas de loi générale là-dessus ou générique là-dessus, et donc Macron avait promis un texte aussi sur la restitution des biens culturels africains qui ont été volés par la France avant la colonisation et surtout pendant les périodes de colonisation. Donc voilà, c'est quelque chose de positif. On notera qu'il y a eu une petite bataille. Alors ça a été voté à l'unanimité, même par l'extrême droite, mais l'extrême droite a essayé de dédouaner l'État français en disant en faisant préciser à un moment que c'était sous l'autorité du régime de Vichy qui était illégal et illégitime. Donc d'abord, ça a fait réagir parce que le régime de Vichy était légal et légitime, hein, légal parce qu'il avait été élu par les parlementaires, et légitime parce qu'il était, les pleins pouvoirs étaient donnés par les parlementaires. Alors on peut discuter de la légitimité, mais la légitimité dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire on respecte les lois, etc., ce régime malheureusement était légal et légitime. Voilà, ils ont essayé de sauver l'État français, l'image de l'État français, l'extrême droite du RN, mais non, on rappelle que c'est bien l'État français qui a fait toutes ces horreurs, et donc notamment celles entre 1933 et 1945. Voilà, ça a fait un petit moment de tension, mais au final, ils n'ont pas pu faire adapter ce qu'ils voulaient, et ils ont quand même voté à l'unanimité, parce que ça allait faire... c'était pas jouable politiquement de pas le voter. On rappelle que les militants et militantes du RN n'ont pas forcément cet avis-là, mais là, ils n'avaient pas le choix, il fallait voter ce truc-là. Ah oui, alors j'ai un truc débile, là. Enfin, débile. Je veux parler un peu de santé et d'effets qui se coulent. Vous savez, c'est le deuxième effet en lien avec cette marque de bonbons. Je ne sais pas si j'en ai déjà mangé un jour, mais avec leur campagne de pub, ils ont fait rentrer cette expression. Et donc je vais parler de l'effet qui se coule, du lavage de dents. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est la rubrique science presque inutile, mais quand même utile, du Canu Info du jeudi. Et j'ai cherché des infos positives et c'était pas facile à trouver. Alors moi, dans mon info positive, c'est une grosse étude quand même. 1675 patients regroupés en 4 groupes selon leur fréquence de brossage de dents. Parce qu'on parle bien de brossage de dents. Les chercheurs vont examiner, suivant l'âge, le genre, l'historique sanitaire, c'est-à-dire est-ce qu'ils fument, est-ce qu'ils ne fument pas, est-ce qu'ils boivent pas, etc. Ils vont étudier tout ça et ils vont, pendant plusieurs années, regarder l'impact, enfin, les accidents cardiovasculaires qu'il va y avoir dans ce groupe, les accidents cardiovasculaires au sens large, hein, insuffisance cardiaque, arythmie, infarctus du myocarde, angine de poitrine, les maladies liées, les maladies valvulaires ou les maladies aortiques. Et finalement, qu'est-ce qui conclut ? Eh ben, il y a une vraie forte avance en fait, c'est que les groupes personnes qui se brossaient les dents le soir, qui se les brossent le matin ou pas d'ailleurs, avaient un taux de survie aux maladies cardiaques bien plus élevé que celles et ceux qui ne se brossaient pas les dents le soir. Voilà. Donc quand vous brossez les dents le soir, c'est pas simplement contre les caries ou pour votre santé, la santé de vos dents, mais c'est aussi pour votre cœur. Alors c'est pas la première fois hein, qu'on a des liens entre la santé, l'état des dents et le cœur, mais là c'est prouvé par une étude. Et se laver les dents le matin n'a pas d'impact. C'est se laver les dents le soir. C'est assez incroyable. C'est la constatation. Il n'y a pas d'explication. Hein. C'est une étude qui constate les choses. Donc, ils avaient 4 groupes. Hein. Un groupe qui se lavait matin et soir. Un groupe qui se lavait ce soir. Un groupe qui se lavait pas du tout les dents, etc. Donc, c'est assez sérieux comme étude. Voilà. C'est pour dire que le conseil sanitaire du Canu Info, c'est de se laver les dents le soir.
Alors, on va terminer avec une autre information. Ça se passe à Nice. C'est l'artiste Toulette qui a à nouveau sévi dans les rues de Nice, puisqu'il a installé des énormes pièges à souris, des croustapettes. À la place du fromage, il y a mis un cornet de glace.
C'est des pièges à touristes.
Et c'est des pièges à touristes, exactement. Alors, vous irez voir, elle est sur les réseaux sociaux. Souvent, on dit que c'est le Banksy niçois. Je ne sais pas si c'est bien de vouloir le comparer à un autre artiste extrêmement célèbre, mais c'est vrai que certains de ces graphes muraux ont une petite saveur de Banksy. Mais c'est vrai qu'il faut aussi des installations de rue, souvent assez importantes, hein, assez grosses. Et donc, il a installé ces pièges à souris, et c'est donc des pièges à touristes pour dénoncer un surtourisme, un tourisme de masse là-bas à Nice. Puisque la Baie des Anges, en 2022, il y a eu 7 millions de visiteurs. En 2019, c'était 5 millions, hein, c'est-à-dire avant la période de Covid. Et il a expliqué dans la presse qu'en plus, avec l'extension de l'aéroport de Nice, ça n'allait pas arranger les choses. C'est-à-dire qu'il allait avoir encore plus de touristes de masse qui vont pouvoir se déverser, et que la Méditerranée, c'est la première victime. Il a expliqué qu'il y avait la pollution, la surconsommation d'eau, le manque de logements pour les locaux, et que donc c'est pour ça qu'il avait fait ces installations. L'année dernière, il avait fait une autre installation de rue. Il avait, avec un collectif qui s'appelle Nice Plogging, été ramassé pendant 8 heures d'affilée les mégots sur la plage. Il s'en avait récolté un truc comme 10 000. Hein. Et il avait créé un énorme paquet de cigarettes et il avait appelé ça la boîte à gros cons pour critiquer tous les gens qui laissent leurs mégots comme ça n'importe où et qui sont... Enfin, des outils à pollution, hein, ces mégots quand même. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il a fait plein de choses, hein, en particulier contre la Coupe du Monde au Qatar. Il avait fait un graphe où c'était écrit « Joue avec ton ballon d'or, pas avec mon ballon bleu ». Il s'en était pris aussi toujours au Qatar. Il avait mis un mannequin au sol, habillé comme un ouvrier du bâtiment. Et il avait écrit au mur « Qatar m'a tué ». Donc c'était pour dénoncer la mort de tous ces ouvriers sur les chantiers. Et puis, le truc n'avait pas du tout plu, a priori, hein, du côté des joueurs. Il avait fait un grave de Hugo Lloris, hein, des joueurs donc de cette équipe de France, qu'il avait bâillonné avec un billet de banque, puisqu'à l'époque, en novembre 2022, ce joueur avait refusé, vous en souvenez certainement, de porter un brassard aux couleurs arc-en-ciel pour soutenir les mouvements LGBT, éviter donc l'homophobie. Donc c'était une de ses actions. Et puis il fait des choses après plus rigolotes où il met un Einstein qui calcule 2021, 2022 plus 2023, ça fait 666. Voilà, je vous laisse raconter si vous n'êtes pas sûr, des choses comme ça. Donc il s'amuse un petit peu aussi avec la ville d'une manière générale, hein. Il a détourné des panneaux de la circulation pour aussi critiquer les retraites. Il avait changé les panneaux 60 pour les changer en 62. Les sorties d'usine, il avait mis des le passage piéton avec des vieux au-dessus. Donc voilà, il avait mis, oui, il avait mis aussi un panneau, vous savez, les panneaux bleus où il y a le H de hôpital, il avait mis complet dessus. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui a des notions pour la protection de l'environnement, pour les animaux, parce qu'il a fait aussi des choses sur les animaux du cirque, et puis aussi qui s'est engagé donc contre la réforme des retraites. Voilà, à Cannes par exemple, là il avait fait des panneaux pour vous savez, vous avez à Hollywood, hein, c'est sol avec les empreintes des stars. Et lui, il avait fait la même chose pour dire il y a des gens derrière, des petites mains qui travaillent. Ce serait peut-être bien aussi d'en parler. Donc voilà, tout ça pour dire que du coup, c'est la nouvelle action de Toulette contre le tourisme de masse à Nice. Et cette année, beaucoup d'endroits dans le monde sont confrontés à ce tourisme de masse. Entre les villes, pays qui cherchent la solution avec des taxes à l'entrée, des endroits où même en France, l'année dernière ça s'était mis dans les Calanques par exemple, où on va limiter les jauges pour aller poser ses fesses dans un endroit magnifique vers Marseille. Il y a tout un endroit, un tas d'endroits dans le monde qui tentent de limiter l'arrivée des touristes de masse, qui est en plus pour un certain nombre de villes assez problématique parce que c'est un touriste qui ne consomme pas forcément beaucoup et qui a beau se multiplier, ne ramène pas autant d'argent qu'on pourrait l'attendre.
Voilà, ok, pour ce Cagne Info que j'essaie de
valoriser positivement. Ouais. Tu as été proactif, je l'entends bien.
Voilà, j'ai pas parlé c'est des violences bien. Policières, j'ai pas parlé des prêtres.
Voilà, ça veut pas dire que ça n'existe pas, bien voilà. Malheureusement.
On n'a pas parlé de plein de choses ultra négatives.
Et qui sont pourtant en cœur de notre activité.
Et qui sont notre quotidien.
Voilà. On vous laisse, nous on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Là pour l'instant, ça sera donc une soirée avec les bandes de Continue pour l'instant.
Bye bye.
Ciao. We'll be right back.